Osmozen, l'émission. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être avec nous. C'est Osmose, Osmozen, l'émission bien-être d'Osmose Radio en partenariat avec Rage FM que vous retrouvez donc, l'émission que vous retrouvez sur Rage le dimanche soir à 22h, l'heure où on peut écouter tranquillement des gens discuter, bien évidemment, parce qu'on discute beaucoup dans cette émission et on parle principalement de bien-être, de développement personnel, de mieux-être. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter et de recevoir Géraldine Bergon qui est avec nous. Bonjour Géraldine.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très très bien, merci.
Ça va ?
Très bien.
Je vais essayer de vous sourire parce que on est l'effet de... Non, on voit...
Oui, c'est
l'effet
miroir. C'est ça,
c'est ça. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on...
C'est le miroir au premier niveau. Vous me souriez, je vous souris.
D'accord, donc tout va bien. Nous sommes souriants de l'intérieur.
Voilà.
Géraldine Bergon, je vous ai présenté en disant, vous me stoppez, hein, mais je dis que vous êtes auteur. Ça, c'est vrai, puisque vous avez un livre, hein, que vous venez nous présenter. Conférencière, fondatrice de l'école au coaching fondamental.
Oui, c'est ça.
C'est quoi l'école au coaching fondamental ?
C'est une école de vie, quelque part, qui dure 6 mois. Donc, c'est un enseignement où je forme principalement des coachs de vie. Mais je reçois aussi des personnes qui viennent ouvrir leur niveau de conscience, venir regarder les choses autrement, vivre la vie autrement. Et voilà, pendant 6 mois, on fait un travail de fond où on apprend ce que j'appelle les principes universels. On apprend qu'il n'y a pas de bien, qu'il n'y a pas de mal, mais que tout est que bonheur quand on arrive à jouer avec la vie.
Tout est bonheur quand on arrive à jouer avec la vie.
Oui,
c'est très bien dit.
Quand on
et cette
les
école, c'est tous les 6 mois, donc l'école, j'ai oublié son nom déjà, l'école au coaching fondamental,
oui.
C'est tous les 6 mois ?
Ou
c'est 6 mois dans l'année, puis 6 mois, vous passez à autre chose ?
Alors, c'est 6 mois dans l'année. Mmh. Je l'ai ouverte quelque temps à tout moment, mais je vais reprendre les ouvertures au mois d'octobre.
D'accord, c'est bon à savoir.
Oui.
Alors, j'ai dit également que vous étiez auteur et conférencière.
Oui.
Vous faites des conférences partout en France ?
Voilà, j'ai fait pas mal de conférences sur plusieurs thèmes. Aujourd'hui, je fais des conférences principalement sur l'effet miroir, évidemment, puisque je viens d'écrire un livre sur le sujet.
L'effet miroir, ça s'appelle justement.
C'est ça, c'est ça.
C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais bien parler un petit peu de vous, savoir qui est l'auteur derrière l'effet miroir. L'effet miroir, c'est un concept que vous avez imaginé, que vous avez contrôlé, enfin vérifié sur des personnes qui venaient vous consulter.
Ah oui, alors tout à fait. Déjà c'est quelque chose que j'ai ressenti très fort dans ma vie.
Mmh.
Le fait qu'il existait une cohérence de vie. Et pour moi, la cohérence de vie, c'est que nous sommes nés pour être heureux. Nous avons toute la perfection à l'intérieur de nous. Et quand cette perfection n'est pas là, quand on ne voit pas ça dans notre vie, pour moi, il y a une incohérence. Et l'idée, c'était de voir où était cette incohérence. Et à partir de là, j'ai étudié ces phénomènes-là qui reviennent à étudier l'interaction entre ce qu'il se passe à l'intérieur de nous et ce qu'il se passe à l'extérieur de nous. Il y a vraiment une forte interaction et j'ai pu vérifier ça déjà sur moi. Je l'ai, de nombreuses fois, j'ai testé le fait que, suivant l'état d'esprit que j'avais, ça allait en face générer tel genre de situation. Et quand je changeais mes pensées ou mes croyances, je recevais un autre type de situation. Et puis, évidemment, je l'ai travaillé en partenariat avec ma clientèle, quelque part, qui venait chercher des réponses par rapport à ça.
Mmh. Et souvent, ils viennent chercher des réponses par rapport à un mal-être ou un problème familial,
oui,
professionnel. Et c'est grâce à cette, comment on appelle ça, cette vision, ce concept de l'effet miroir que vous arrivez à les aider.
Ah oui,
à leur montrer
fait
que le problème, en fait, il n'est pas là, ils ne sont pas des victimes, mais que c'est à l'intérieur d'eux-mêmes.
Exactement.
Il faut régler quelques façons de voir, de penser les choses.
C'est ça. Je ne travaille qu'avec ça. L'idée, c'est de regarder ce qui se passe à l'extérieur. Et l'extérieur est vraiment le miroir de choses que l'on contient à l'intérieur de nous-mêmes.
Mmh.
Et c'est en ça que c'est intéressant de s'en servir. C'est vraiment une vraie glace qui vient nous parler de nous.
Oui.
Tout autour de nous vient nous parler de nous. Et je travaille à partir de ça.
Ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas passif. C'est-à-dire que on peut constater les dégâts, quelque part, en voyant des situations se reproduisent, par exemple, devant nous. Et en fait, se dire, c'est à l'intérieur de moi.
Voilà.
Si c'était passif, ça serait une fatalité. On serait là, mon Dieu, c'est à l'intérieur de moi. Je ne vois que... Mais en vérité, on peut changer à l'intérieur de soi des choses.
C'est ça.
Et à l'extérieur, tout d'un coup, la vie change aussi.
Voilà.
C'est un peu ça. Hein,
L'idée, c'est de venir réajuster les choses à l'intérieur de soi. Mmh. Je ne vous cache pas que l'idéal, quand même, ce serait déjà de connaître ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Hein, parce que comme ça, on serait conscient de ce que l'on va projeter à l'extérieur, de ce qu'on va manifester à l'extérieur. Mmh. Mais tant que ça n'a pas été fait, on peut quand même se servir de l'extérieur pour venir, non pas juger, mais améliorer, faire évoluer les choses.
Mais en vérité, quand on lit votre bouquin, ce que vous dites là, ça fait partie aussi de l'effet miroir. On peut apprendre à se connaître grâce à l'effet miroir.
Oui.
Puisque les choses qu'on voit sont quelque part, ou celles qui retiennent notre attention, qui nous marquent, sont des choses qu'on a à l'intérieur. Donc on peut déceler un petit peu des parts d'ombre
ou
en appliquant votre méthode.
Ouais. Ou de lumière aussi.
Ou de lumière.
Il y a les deux.
Ce que j'allais dire, il y a les deux. Il y a l'effet miroir positif, c'est ça, et négatif. Il y a les deux au début, je ne sais plus.
Il y a les situations de vie.
Lumière.
Il y a des situations que l'on trouve extrêmement belles, que l'on admire, etc. Et là, il y a un effet miroir qui se joue. Et puis, il y a des situations qui nous font mal et il y a un effet miroir qui se joue aussi. Mais les deux n'apportent pas la même chose. Mais en tout cas, ne se travaillent pas de la même façon. Mais en tout cas, les deux nous amènent à nous connaître et surtout à venir révéler chez nous des potentiels qu'on n'utilise pas encore, des qualités qu'on n'ose pas s'avouer, etc. Donc, ça vient révéler ça, en fait.
Oui, c'est ce que je voulais dire. Dans votre livre, vous appelez ça l'effet miroir positif. Et l'effet miroir négatif.
Oui.
C'est une sorte de check-up au début, ça. Non, parce qu'il y a des questions. Qu'est-ce qui me touche, par exemple? Quand on commence à se poser ce genre de questions et qu'on s'aperçoit qu'est-ce qui nous touche, on peut commencer à avoir une idée de notre personnalité intérieure. Quoi.
Oui, on a une idée de ce que l'on a choisi comme pensée et comme croyance à l'intérieur de nous. Et ce que l'on a choisi comme pensée et croyance, ça va être la façon dont on crée notre vie. Et effectivement, pour moi, la vie est équilibrée et on peut le sentir à l'intérieur de nous quand nous sommes bien posés, stables, on est équilibré, tout va bien. Il n'y a pas forcément d'effet miroir à travailler, tout est OK. Par contre, dès que quelque chose vient nous toucher, et là, on peut être touché en positif, en bien, en admiration, en émerveillement ou... Dès que quelque chose vient nous toucher, mais en nous blessant.
Nous heurter alors plus.
Oui, nous heurter. Ouais. À ce moment-là, ça vient dire qu'il y a un déséquilibre à l'intérieur de nous. Mmh. Et qui dit déséquilibre dit quelque chose à réajuster tout simplement.
Mais même dans la partie positive, on peut admirer quelqu'un en croyant que c'est inaccessible.
C'est ça.
J'adore cet orateur parce que.
Ouais.
Enfin, je parle. En tant qu'animateur de radio, parce qu'il parle
bien,
etc. Ouais. Et en vérité, ça, d'après vous, ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, cet orateur, il est là, quoi, déjà.
Mais oui, il est là. Mm. Et ce qu'il y a, c'est que quand vous l'admirez, quand vous êtes émerveillé par cette personne en face, qu'est-ce que vous faites? Vous dites que cette qualité qui vous émerveille, elle est en face.
Elle est extérieure.
Elle est extérieure, mais vous ne la reconnaissez pas en vous. Parce que si vous la reconnaissiez en vous, vous aimeriez bien ce qui se passe en face, mais vous ne seriez pas dans cet excès de positif quelque part. L'émerveillement, ça représente un excès. Hein. L'adoration, c'est un excès. Tout ce que l'on adore, c'est ce que l'on ne veut pas voir à l'intérieur de soi. Parce que nous sommes peut-être dans une culture qui a dit que
on culpabilise un peu.
Oui, c'était pas bien. Voilà, c'était pas bien de regarder ses qualités. Donc, comme c'est pas bien de regarder ses qualités, on les met à l'extérieur de soi. Mais la chose à faire, c'est de récupérer ces qualités-là et d'apprendre à les aimer et de s'aimer en ça. Et vous aussi, du coup, vous allez devenir comme cet orateur.
Ça, c'est ce que j'aime bien dans votre livre, l'effet miroir, c'est que d'habitude, on a plutôt la position négative, c'est-à-dire on dit, on juge bien que ce qu'on connaît bien. Donc on voit le mal qui est en nous, on le voit ailleurs quelque part on le juge ailleurs. Mais le bien aussi.
Tout à fait, mais le bien aussi.
Voilà. Et ça, c'est intéressant. Oui.
Bien sûr.
Parce qu'on s'arrête, c'est vrai qu'on focalise souvent sur la partie négative.
Oui.
Je remarque que quelqu'un est avare, c'est que quelque part en moi, il y a un avare qui sommeille.
C'est ça. Mais en même temps, il n'y a pas à juger ça. C'est juste un chemin qui est à faire et qui va nous amener au même endroit de notre beauté intérieure.
Alors, c'est un cheminement qui prend du temps. Il faut 6 mois, comme à l'école du coaching.
Non, il ne faut pas 6 mois. Je crois que c'est un réflexe à acquérir, quelque part. Et ça peut prendre quelques secondes, mais... Tout dépend de ce que l'on va rencontrer en face. Parfois, ce que l'on rencontre en face, c'est léger. On peut voir quelque chose qui nous heurte dans la rue. Enfin, déjà, le mot heurter, ce n'est pas léger, mais on peut voir quelque chose qui ne nous plaît pas dans la rue et on va pouvoir le réajuster en nous très, très rapidement. parfois, on va vivre des situations qui seront un petit peu plus costauds. Et là, ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais quand on sait que ça va nous ramener à l'amour de nous, quand on sait que ça va venir guérir quelque chose, à ce moment-là, peu importe le temps, ce qui est important, c'est d'aller mieux.
Une fois qu'on est entré dans la mécanique de ouais. l'effet miroir, on ne peut que s'améliorer en permanence, finalement.
Mais tout à fait.
Une fois qu'on a capté la chose.
Voilà. Et après, quand on a compris que tout ce qu'on voyait à l'extérieur, c'était ce qui était chez nous, ou ce qu'on voyait chez nous, ou je dirais même autrement, tout ce que l'on juge à l'extérieur, c'est tout ce que l'on juge chez nous, ça devient un super exercice pour ne plus juger. Parce que ne plus juger, c'est une position qu'on aurait à prendre quelque part.
Bah, on dit que ce jugement est néfaste pour nous.
Bah oui, le jugement est néfaste pour nous. Donc, plus on comprend ça, moins on va juger, moins on va regarder le négatif à l'extérieur, et plus on va aller se concentrer vers ce qui est beau.
On ne va pas finir complètement égocentré non plus, tourner vers son nombril et son intérieur. C'est pas le danger de la chose.
Non, je ne crois pas que ça ait de lien.
De me traverser l'esprit, je me dis, à la fin, on est toujours en train de se regarder.
Mais si vous voulez, par exemple, moi, là, en ayant l'habitude de le faire, ce que je vais regarder chez vous, c'est ce qui est beau. Donc, ce n'est pas de l'égocentrisme, j'espère que par mon regard sur vous qui est beau, vous vous révélez à votre beauté intérieure, donc je vous aide.
Merci. Bon, ça va, on a 58 minutes.
Oui.
On va voir à quel niveau j'arriverai au bout de 58 minutes de regard positif de votre part. Donc, ce que j'aime bien, c'est que votre livre, c'est quand même... on a beaucoup de bouquins hein, comme ça, de développement personnel, mais là, c'est la méthode.
Oui, c'est un livre pratique.
Eh oui, c'est très pratique. Ça change. On n'est pas dans la théorie, machin. Là, vous pouvez nous expliquer, vous nous expliquez comment on applique. Alors, ce que j'aime bien, c'est que souvent, ça démarre par des questions.
Oui.
C'est un peu comme un exercice de maths ou de philo. Il faut se poser les bonnes questions
pour
obtenir les bonnes réponses.
C'est ça.
C'est un peu ça.
C'est ça. Ce sont des questions très simples, si vous avez remarqué. Donc, les questions, c'est...
Qu'est-ce que j'admire, je l'ai dit tout à l'heure, par exemple.
Voilà, quand on
fait son check-up quelque part.
Voilà, quand on admire quelque chose, qu'est-ce que j'admire ? Et dans le qu'est-ce que j'admire, ça va vous montrer ce qui est en vous, dans cette réponse-là. Donc, qu'est-ce que vous admirez chez cette personne qui est un très bon animateur ?
Et si c'est physique, si j'admire, par exemple, la beauté rayonnante de quelqu'un, ça veut dire que j'ai cette beauté rayonnante, même si en me regardant dans un miroir, je me trouve complètement... moche, quasimodo, je plaisante, mais j'essaie de voir le contraste, parce que souvent, on a ce...
La beauté rayonnante.
Ou même dans les bouquins ou des films, ce personnage un peu moche qui envie quelqu'un, une étoile, une idole, qu'il trouve merveilleusement belle.
Mais vous savez que la beauté, c'est avec le regard intérieur, donc...
Ouais.
Bah oui.
Ça, c'est facile à dire, parce que il y a quand même des difficultés quand on est un petit peu...
Et en même temps, c'est vrai, on peut trouver des exemples de personnes qui sont, qui sont amputées, qui ont des choses comme ça et qui ont une énergie de vie, un rayonnement vraiment intéressant. Et il y a plein de personnes qui sont très, très belles et qui se trouvent moches. Donc, la beauté ne se situe pas là.
C'est hyper subjectif. Mais ça veut dire quand même que si on trouve des gens beaux, c'est que cette beauté est en nous aussi.
Voilà.
Donc,
vous savez voir, en tout cas, votre beauté intérieure. Vous savez la voir. Tout ce que vous regardez à l'extérieur, c'est quelque chose que vous regardez chez vous.
Et petit à petit, ça ressurgit, c'est-à-dire que notre vie, ça va prendre la place dans notre vie.
Oui. Quand on y a goûté.
Non, mais ce que je veux dire, je sais pas, moi, si je. Alors, on va changer de thème, mais si je rêve de. Je sais pas, moi, je vois quelqu'un qui est un très, très fort trader, par exemple, et j'aimerais, c'est mon rêve, mais. Ça veut dire qu'en moi, j'ai déjà cette capacité d'être un négociateur d'enfer et que je peux y arriver.
Oui, tout à fait.
C'est ça ?
Voilà, tout à fait.
Donc, ça peut venir changer ma vie complètement au bout d'un moment.
Exactement. Et vous allez y arriver en reprenant la projection que vous mettez à l'extérieur. Vous lui dites merci, mais vous le reprenez chez vous. Et vous allez observer chez vous où est-ce que vous êtes déjà ce trader.
Merci de m'avoir montré que je pouvais être un super trader, par exemple. C'est ça, en gros. L'exemple est peut-être mal choisi du trader.
Oui, peut-être, mais... Mais c'est ça, oui. On dit, dans les deux cas, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, on va dire merci à ce que l'on voit en face, à cet événement qui s'est révélé en face de nous, parce qu'il vient nous révéler nous-mêmes là où nous en sommes. Pas qui nous sommes, mais là où nous en sommes. Et à partir de là où nous en sommes, on va pouvoir évoluer.
Alors, c'est même très extrême parce que vous dites texto, il n'est possible de voir que ce qui nous appartient déjà.
Oui.
Donc, on ne peut pas voir ce qu'on n'a pas à l'intérieur, on ne peut pas le voir.
Non.
C'est dingue.
Non. Il y a plein de choses dans la vie que l'on ne voit pas, où l'on passe complètement à côté parce qu'on n'est pas câblé sur ça.
D'accord. C'est étonnant.
Ouais.
Parce qu'il y a plein de choses qu'on voit qui ne sont pas forcément en nous, peut-être.
Vraiment, alors là, je vous assure, tout ce qui est autour de vous, vraiment, même dans cette pièce, souvent, là où on va pouvoir pratiquer l'effet miroir le plus puissamment, c'est dans les relations. Les relations sont très riches d'opportunités pour pratiquer l'effet miroir, mais cette pièce aussi, tous les objets, tout ce qu'on voit autour de nous, peuvent parler de nous. Ça va parler de nous dans la façon dont on a de regarder cet objet.
C'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein ?
C'est comment vous allez voir, par exemple, là il y a une bouteille, comment est-ce que vous allez définir cette bouteille et comment est-ce que moi je vais définir cette bouteille ? Ce ne sera pas la même définition.
Ou le petit trou dans le micro.
Oui, c'est ça.
On ne l'a pas vu de la même façon.
Oui, exactement.
Là, non, ça peut être pour une personne, quelqu'un qui a mordu, pour l'autre, comme on a nettoyé un petit bout est parti.
Voilà. C'est ça, ça parle de nous dans la façon dont on regarde ce qui est à l'extérieur.
Et de cette façon dont on aborde, quelque part, la vie, va dépendre de notre vie. C'est vrai qu'on peut, on le dit souvent, des gens ne voient que, ils râlent tout le temps, ils ne voient pas le beau côté de la vie, ils ne s'arrêtent qu'aux détails négatifs.
Et leur vie,
c'est presque un enfer. Quoi,
c'est ça, c'est la façon dont ils vont vivre, dont ils vont créer leur vie.
J'aime bien aussi une phrase, je pense qu'elle est de vous, c'est une citation de votre livre. Ce qui me dérange chez l'autre, c'est ce qui n'est pas réglé en moi-même.
Oui.
C'est ça la phrase ?
C'est ça, c'est exactement ça.
Regardez, je me suis demandé. ça, c'est intéressant aussi.
Oui.
Quand on est dans une phase de développement, d'aller de mieux en mieux, se dire, tiens, s'il y a un truc qui me dérange chez le voisin, c'est qu'en fait, c'est chez moi qu'il faudrait que je règle quelque chose.
Exactement.
Donc, ça nous apprend ce qu'on a à régler chez nous.
Ouais. Et c'est en ça qu'est intéressant l'effet miroir. Et c'est là que démarre le chemin, le vrai chemin. Quand on a arrêté de juger l'extérieur et qu'on vient voir à l'intérieur de soi ce qu'il y a. On parlait tout à l'heure de ne regarde pas la paille dans l'œil du voisin, mais viens voir la poutre qui est chez toi. Et dès que la poutre chez soi est nettoyée, on va dire, quelque part, dès qu'il y a amour là-dessus, à ce moment-là, on va dégager une énergie de vie complètement différente. Notre regard sur la vie va être différent. Et ce que l'on va voir aussi, ce vers quoi on sera attiré, ce qui viendra vers nous, ça va être différent aussi.
C'est un joli pied de nez parce qu'en vérité, on utilise ce jugement qui est inné chez nous. Oh, il est gros, ou il a un gros nez, ou il n'est pas beau, enfin j'en sais rien, c'est ce qu'on a comme jugement, ou il est méchant. On l'utilise parce qu'on l'a, et on l'utilise pour s'améliorer. Je veux dire, s'il est moche, c'est que il y a quelque chose de pas beau en moi. Au lieu de me dire c'est lui qui est moche, c'est tout d'un coup, ça inverse la chose.
Mais on va se servir du jugement, effectivement, comme d'un outil. Mais ça sera pas. Il ne faudra pas rester appuyé sur le mot jugement. Mais
puis c'est plus un jugement vraiment de l'autre. C'est un outil de réglage de notre propre personnalité.
Ça nous sert, mais après, on le lâche, par contre, pour venir réajuster.
Remarquez, c'est vrai qu'on ne va pas passer sa vie à regarder ce qui nous déplaît chez les autres pour savoir ce qui est, ce qui est mauvais chez nous ou bon chez nous. Donc, il y a un moment, c'est vrai, il y a une autre étape. Elle est expliquée dans le livre ?
L'autre étape, bien sûr qu'elle est expliquée dans le livre. Non, pas du tout.
D'accord.
Pas du tout. L'autre étape, c'est vraiment de venir reconnaître ce qui est chez soi. Donc là, il y a une étape qui est parfois un petit peu plus complexe. C'est parce que l'ego vient verrouiller ça. C'est l'étape de reconnaître où est-ce que chez soi, on a des pensées qui sont mal calées, des croyances qui ne sont pas OK, qui ne sont pas alignées avec l'amour. C'est de venir... Donc l'idée, c'est que ce que l'on voit à l'extérieur, c'est quelque chose que l'on se fait à soi. Hein, donc ce n'est pas toujours évident de venir accepter que l'on se fait du mal.
Chaque fois que je malmène quelqu'un, c'est moi-même que je malmène.
Exactement. Exactement. Et c'est peut-être là où il y a une petite difficulté dans la pratique de l'effet miroir, c'est vraiment de venir accueillir ce en quoi je me malmène. Donc de venir accueillir que je peux ne pas me respecter, de venir accueillir que je peux être injuste avec moi-même, de venir accueillir que je peux m'ignorer, des choses comme ça. Ça fait mal quand même quelque part. Et pourtant...
On a du mal à y croire surtout. Enfin, je pense à vos exemples.
Et pourtant, y a aussi une question qui dit où est-ce que tu te fais ce mal-là dans ta vie ? Et on trouve toujours des exemples. Et c'est en trouvant ces exemples qu'on arrive à dire « Ah oui, je me fais ça ».
Finalement, oui.
Ouais. Mais l'idée, c'est de l'accueillir, vraiment, de s'accueillir en ça. Oui, je me fais ça. Et d'apprendre à s'aimer dans ça. Parce que l'amour, c'est vraiment l'énergie qui va venir guérir.
Alors oui, c'est émaillé d'exemples concrets.
Oui. J'ai fait exprès donc, de mettre beaucoup d'exemples.
Oui, c'est assez intéressant. Il y a cet exemple de, je ne sais plus, c'est un monsieur ou une dame hein, dans le livre, qui, par rapport à son patron, qui pense qu'il me néglige, il me sous-estime.
Oui.
Et donc là, c'est là que vous intervenez en l'aidant à dire « je me néglige,
exactement.
Je me sous-estime ».
Exactement.
C'est dur, ça.
Voilà, c'est ce que je vous dis, c'est pas évident, mais après quand on cherche dans sa vie, alors c'est pas « je me néglige » ou « je me sous-estime » dans tous les points de ma vie, peut-être sur votre plan de vie privée, vous êtes quelqu'un d'extrêmement génial, extraverti, etc. Et sur le plan professionnel, ben, vous vous négligez. Alors vous négligez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas, vous acceptez des tâches qui ne vous plaisent pas, vous ne vous exprimez pas à la hauteur de ce que vous aimeriez, ça peut être tout un tas de choses. Mais c'est juste de venir voir où est-ce que vous vous négligez dans une partie de votre vie.
Puis c'est vrai qu'on se le dit souvent, je suis nul par exemple.
Ah.
Non, ça arrive.
Et oui, et oui, et oui, et oui.
Donc
oui.
On arrive quand même petit à petit aussi à s'auto-flageller. Enfin, je ne sais pas comment on appelle
ouais,
ça.
Oui, mais exactement, c'est ça, à dégrader qui nous sommes.
Alors si je reprends bien les bases, il faut partir sur cette base très, très, très solide. On est bon. On est bien,
oui.
On est merveilleux, la vie, c'est de l'amour, voilà. Et tout ce qui,
nous sommes
tout
là...
ce qui déroge de ça, c'est des erreurs ou des jugements personnels.
Oui,
ou
des histoires que l'on se raconte qui n'ont pas à être là. C'est, nous sommes sur cette terre pour expérimenter le bonheur, l'amour que nous sommes. Hein. L'amour, c'est notre essence de vie. Et c'est ça que nous sommes venus expérimenter. Mais effectivement, parfois, on ne voit pas ça parce qu'on a décidé de prendre un autre chemin, de se raconter d'autres histoires qui ne sont pas en lien avec l'amour. Et justement, c'est ces histoires qui sont à nettoyer. Et l'effet miroir vient nous les pointer. Et l'idée, c'est de les lâcher. De les lâcher. Et plus on lâche de choses, plus on va revenir à cette énergie de vie que nous sommes et qui génère du bonheur, des histoires agréables, des...
Envie de chanter, de sautiller, de l'énergie.
Voilà, et bien quand vous chantez, quand vous sautillez, vous venez expérimenter dans votre corps, avec vos cinq sens, l'amour que vous êtes.
L'enfant aussi, quelque part, qu'on est...
C'est ça le sens de la vie.
En permanence.
C'est vraiment ça, c'est de venir goûter à cet amour.
Alors c'est sympa, parce que quand on a la chance d'avoir de temps en temps des moments où on chantonne, et on peut dire finalement... On est sur la bonne voie, quoi.
Voilà,
qu'on n'a pas complètement perdu
c'est ça.
Cette joie, cette pureté.
Ouais. Ouais, vous y êtes, profitez-en.
Ouais.
Et quand vous n'y êtes pas, ce n'est pas la peine de juger, c'est juste, vous pouvez juste accepter.
Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que ça va assez loin quand même. Bon, alors, chaque fois que je malmène quelqu'un, on l'a dit, hein, il y a d'autres phrases. Hein. Chaque fois que je hais quelqu'un, c'est moi-même.
Que je hais. Bien sûr.
Ça, c'est aussi un peu dur à accepter.
Ouais.
Il y a l'inverse. Chaque fois que j'aime quelqu'un, c'est de l'amour que je me porte.
Ouais, c'est ça.
Alors ça aussi, c'est un peu compliqué de se dire j'aime quelqu'un, mais en vérité, c'est moi-même que j'aime.
Oui, parce que si vous ne vous aimez pas...
Vous travaillez avec des couples, des fois ?
Tout à fait.
Parce que...
Tout à fait, mais je les reçois séparément.
D'accord.
Voilà, parce que chacun a sa problématique à faire avancer. Donc... Mais on sait aussi que lorsque on s'aime soi-même, c'est en s'aimant soi-même qu'on va le mieux aimer les autres.
D'accord. C'est encore biblique, on parlait tout à l'heure de la paille, mais là on aime ton prochain comme toi.
Oui, exactement. Mine de rien.
Ouais, c'est des paroles d'amour tout ça normalement.
Oui, exactement.
Puisque vous parlez d'amour, c'est la source hein, en fait.
Oui.
Quelque part.
Oui.
C'est autour de ça que vous avez conceptualisé un peu l'effet miroir ou les...
C'est vraiment parti de cette idée. Moi, j'ai souvent reçu beaucoup de lumière à l'intérieur de moi et j'ai cette persuasion que nous sommes vraiment des êtres de lumière et des êtres d'amour et qui avons quelque chose à faire, à incarner sur cette terre. Hein, et j'ai toujours été un peu choquée quelque part de quand l'amour n'était pas là. Donc, c'est vraiment à partir de ça que j'ai cherché.
Quand l'amour n'était pas là. Ou plus là. Enfin, dans l'histoire de couple, souvent... Ça part en flèche, puis ça finit en catastrophe.
Exactement.
C'est presque de la haine, c'est presque l'inverse des fois.
On exactement, voit des... mais le couple, vous savez que
la
c'est vraiment
roses, par exemple.
Le meilleur endroit pour réajuster des choses, pour pratiquer, parce que vous savez que tout ce que vous allez dire de l'autre, tout ce que vous allez voir chez l'autre, c'est une projection que vous faites de vous-même, et j'ai vu nombre de couples changer. Alors les deux n'avancent pas au même rythme, hein. C'est un peu ça la difficulté, mais sinon vous pouvez changer à l'intérieur, et quand vous changez à l'intérieur, vous n'êtes plus dérangé par la problématique de l'autre. La problématique de l'autre, elle peut partir, complètement disparaître, ou alors elle peut rester, mais ça ne va plus vous heurter, ça ne va plus rentrer en résonance avec une blessure qui était chez vous, puisque vous l'aurez guérie.
C'est intéressant parce qu'on voit pas mal de couples qui n'arrêtent pas de se critiquer l'un l'autre.
Ouais.
Donc ça, ils s'envoient eux-mêmes leur propre jugement en jugeant l'autre.
Ils renvoient leurs blessures d'enfance, souvent ce qu'ils ont vu chez leurs parents, ce qui les a blessés, ils le renvoient chez l'autre. Ils vont même choisir quelqu'un qui aura cette blessure-là.
Ah oui, comme ça on peut encore mieux se juger soi-même. Quoi.
Oui, et avancer dessus, évoluer aussi.
Ou se faire mal. Enfin, ou lui faire mal en croyant qu'on règle le problème, alors.
Voilà, mais tant qu'on lui fait mal, on n'a pas encore évolué. Mais l'idée, c'est d'ouvrir ce niveau de conscience que...
Parce qu'au départ, quand on cherche la personne qui nous ressemble, c'est inconscient. C'est pas,
exactement.
On ne va pas se dire, c'est pour me régler, c'est pour régler les choses.
Exactement.
Donc, et quand ça finit mal, c'est qu'on en arrive...
C'est qu'on n'a pas réglé les choses.
Et donc, c'est de plus en plus violent, ou c'est de plus en plus de la scène de ménage.
Oui, et à ce moment-là, peut-être qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir une séparation. Mais vu que notre vibration n'a pas changé à l'intérieur de nous, eh bien, il y a un fort risque de schéma répétitif. C'est-à-dire qu'on va choisir une personne qui va ressembler à ça, ou une situation qui va ressembler à ça, jusqu'à ce que on revienne chez nous voir ce qui peut être fait.
On va rendre à César ce qui lui appartient. C'est-à-dire soi-même le jugement qu'on envoie aux autres.
Et venir amener de l'amour là où il y a besoin de mettre de l'amour en soi.
Il y a une autre phrase dans la première partie du livre qui m'a amusée, c'est « Chaque fois que je donne un conseil à quelqu'un, c'est à moi-même que je le donne. »
Oui, c'est ça. Et ça, c'est un jeu avec lequel je joue énormément, vraiment tout.
C'est rigolo, ça.
Oui.
Parce qu'on est tout le temps en train de donner des conseils.
Même quand vous êtes dans votre voiture, vous êtes en train de conduire, vous pensez à quelqu'un et vous dites « Tiens,
exactement.
Il devrait quand même faire ci, ou il aurait dû faire ça. » Mais c'est extrêmement puissant. Moi, j'apprends à me connaître comme ça, avec les pensées que j'ai sur les autres. Ce n'est pas forcément toujours des conseils, mais ce sont juste des pensées que j'ai sur les autres. Je les écoute et je me les réapproprie. Et ben, vous savez que je change beaucoup de choses en moi par rapport à ça. Je me dis, j'en suis là.
Ouais.
Je vais changer ça, je vais changer.
Alors c'est marrant parce qu'à titre personnel, c'est une question, enfin, c'est une chose qui me trotte souvent dans la tête.
Oui.
Bah, c'est vrai qu'on nous demande souvent des conseils quand on est un peu journaliste, etc. Et puis quand on en donne, c'est vrai que des fois, après, je dis, mais en fait, j'aurais très bien pu me le dire à moi-même, ça.
Exactement. Voilà. Vous venez de
c'est
dire
c'est marrant,
ce qui est.
Mais on, bah oui, parce qu'on se le dit, évidemment. Ouais. Mais pourquoi je lui dis à lui alors que ça me va très très bien, quoi. Comme,
voilà. Et en plus, la vie est suffisamment bien faite pour que vous rencontriez les personnes qui vont vous poser cette question-là, mais qui en fait vous correspond. Hein, quand on regarde l'autre, en fait, on se regarde soi-même. Mmh. Quand on parle à l'autre, on se parle à soi-même.
Donc tout n'est quasiment que projection de nous-mêmes.
Oui.
Et nous ne sommes nous-mêmes que des projections d'autres. C'est un peu compliqué après là.
Mais là,
en gros, quand on entre dans la vie de quelqu'un, c'est aussi parce qu'il a besoin de ça, ou de nous.
Et oui, c'est ça.
De ce qu'on va faire avec lui, comment on va agir.
Il n'y a pas de hasard dans la vie, jusqu'à ce que nous ayons enlevé absolument toutes ces histoires qui viennent parasiter. Et à ce moment-là, nous serons tous... pur.
C'est du boulot.
On sera tous un.
C'est du boulot ou alors c'est 244 pages, si on arrive à la fin du livre.
Agréable à lire avec plein d'histoires différentes pour agrémenter.
Si on arrive à la fin du livre à avoir tout réglé, ce qui me paraît impossible quand même, mais ça veut dire en 244 pages, on peut quand même passer d'un...
Voilà. L'idée, c'est pas de tout régler. L'idée, c'est de passer par là, parce que ça fait faire un chemin d'apprentissage de ce qu'est l'amour. Mais à un moment donné, quand on est habitué, on développe autre chose qui est d'apprendre à regarder directement où se trouve la lumière dans les éléments, la lumière dans l'obscurité. Hein. On peut avoir un regard transformateur. C'est ce que j'appelle le miroir lumineux. C'est-à-dire projeter un regard rempli de ce qui va bien, parce qu'on sait que le regard qu'on va avoir sur la vie, c'est ce qui va se générer dans les secondes, minutes, peut-être heures ou peut-être années à venir. Mais lorsqu'on arrive à garder la position intérieure sur un regard positif, c'est ce qu'on recevra. Donc, voilà, au bout d'un moment, on devient quelqu'un comme ça, qui n'a que ce regard lumineux. Et là, ça va plus vite.
Bah oui, plus on a compris, plus on avance et plus c'est rapide, j'imagine.
Voilà. Et plus on sera nombreux à l'accomplir aussi, plus on sera nombreux à agir comme ça, plus ça sera facile et plus les événements se transformeront facilement aussi.
Alors vous-même, ça a changé votre vie ?
Complètement.
Oui, c'est vrai.
Déjà, juste dans ça, que avant la vie, pour moi, c'était des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Aujourd'hui, plus du tout. Grâce à ça, parce que justement, je vis plus cette vie en bien mal, mais juste dans quand il y a le bien, je profite. Quand il n'y a pas le bien, eh ben, c'est du bien quand même, parce que je vais savoir le transformer.
Je tends vers le bien de toute façon, voilà. Même quand quelque chose de négatif.
Exactement. Donc, il n'y a plus les montagnes russes, en tout cas. C'est un fort outil de gestion des émotions.
Oui, vous parlez des hauts, des bas, du bien, du mal, mais à un moment, vous le dites dans le bouquin, rien de ce qui nous arrive n'est bien ou mal.
Ouais.
Ça arrive et c'est à nous de
eh ben oui, ça
d'en faire quelque chose.
Ça vient nous réveiller en fait. Nous réveiller. Voilà. Parfois, c'est pas agréable, je reconnais.
Non, mais rien que le jugement ou la victimisation. Quand quelque chose arrive, de dire oh là là, mon Dieu, quel malheur. Déjà, ça nous met hors jeu, quoi, quelque part.
Voilà, exactement. Ça fait rentrer dans des émotions négatives. Ça enlève énormément d'énergie. Ça, si on continue de rester là-dedans, on continue de le vivre. Donc, pourquoi pas redevenir le créateur de sa vie, redevenant responsable de ce qui nous arrive.
Quand l'événement est très très grave, ça doit être beaucoup plus difficile quand même.
C'est plus difficile, mais c'est faisable. Ça prend juste un petit peu plus de temps. Ça demande d'avoir une vraie conscience de où on en est soi. Et c'est faisable, vraiment.
Vous citez une phrase à un moment vers la fin du livre par rapport aux attentats de ce monsieur qui écrit « Vous n'aurez pas ma haine ».
Oui, je trouvais ça très beau.
C'est un peu ça aussi, parce que là, on a tué sa femme, 12 ans, 12 ans de vie commune, et il y a un petit enfant de 17 ans.
Il se retrouve avec un petit garçon, voilà.
Et il fait ce texte que vous citez dans
le
bouquin.
J'ai juste cité son texte et certainement la vision qu'il avait lui, où il a décidé de ne pas juger tout ce qui s'est passé. Il a décidé d'avoir un regard qui va au-delà de ce qui s'est passé et d'envoyer et de rester dans l'amour, de préférer regarder ce qui va bien, de préférer regarder ce qui lui reste dans la vie, ce qu'il va pouvoir faire de sa vie, de préférer dire à son petit garçon des choses positives.
Montrer à son enfant aussi, parce qu'il est exemple pour l'enfant, justement.
Exactement. Plutôt que de s'enfermer dans une position de victime, où il aurait du jugement, par exemple.
Et de la haine, puisque c'est ce qu'il dit, vous n'aurez pas ma haine.
Voilà. Et j'explique aussi dans le livre qu'à chaque fois qu'on reste dans le jugement de quelque chose, en fait, on fait perdurer ces situations-là.
C'est l'enfer, en fait. On tourne en rond dans quelque chose.
Oui. Tant qu'on n'enlève pas des racines, les racines, elles sont en nous. Si à l'intérieur de nous, il y a des racines de lutte, de haine ou de choses comme ça, de colère, on va générer à l'extérieur de soi des événements de lutte, de colère et de haine. Et ceux qui arriveront vraiment en premier à stopper ça et à développer autre chose, à revenir dans leur intérieur, dans ce que j'appelle les racines émotionnelles, et à choisir un autre regard, parce que c'est quelque chose qui se choisit.
Ah oui, ça ne vient pas naturellement, ça c'est sûr.
Ouais, ouais.
Le naturel, c'est vraiment de détester, de haïr, de condamner, de pleurer.
Et oui, mais quand on comprend, qu'on fait perdurer les événements.
Ah oui, là, oui. On sort de ce côté laisser aller quelque part et on reprend en main.
Ouais, à un moment donné, c'est bien de se dire, bon, j'ai plus du tout envie de ça. J'ai envie d'une autre vie, j'ai envie d'un autre monde, j'ai envie que ça fonctionne autrement. Donc, je vais changer d'attitude.
Quelque part, ça me rappelle, on dirait un petit guide aussi, alors ça n'a aucun rapport puisque vous n'en parlez pas, mais de la loi d'attraction. Puisque dans le comportement de la pensée, etc., je crée finalement ce qui va m'arriver ou ce que je vois, ce qui m'arrive.
Oui, parce que nous sommes des êtres créateurs. C'est cette fonction que l'on a ici. Donc effectivement, je ne parle pas de loi d'attraction, mais
ça me rappelle un peu.
Par cause à effet, ça fonctionne comme ça, de toute façon.
Finalement, on peut finalement créer.
Oui, il y a une cause, il y a un effet.
Voilà. Là, on corrige au début du livre, mais après, peut-être qu'on arrivera à créer, puisque ce qui est en nous, on le voit à l'extérieur, donc créer des choses positives en nous qui se répercutent et qu'on finit par voir à l'extérieur.
C'est très intéressant. Moi, j'aime bien cette notion de la loi d'attraction où on apprend à générer des pensées positives. Alors, je sais bien que l'absolu, c'est d'écouter ce positif qui est naturellement en nous et de le laisser émerger, tout ça. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas pour l'instant. Et je trouve que l'exercice d'apprendre à créer des pensées positives, ça mène vers ce chemin-là d'aller trouver son être intérieur qui n'est que positif et qui nous donnera à un moment donné tout seul, sans qu'on aille le chercher, les pensées qui nous vont bien et qui nous mènent sur le bon chemin.
Et c'est en ça que votre méthode, c'est aussi un pas vers ça.
Oui, tout à fait.
Puisqu'on apprend à comprendre que ce qu'on voit est en nous.
Voilà.
Je dis au début, c'est plutôt de la mise au point, qui suis-je, où vais-je, quelque part. Puis après, ça peut peut-être devenir créateur.
Ben oui, parce que
en arrivant à créer en soi ce qu'on veut.
Voilà. Quand on sait où on en est dans sa phase qui n'est pas bien réajustée, quand on l'a attrapée, qu'elle est devant nous, qu'on la voit, on peut la transformer en positif. C'est difficile de transformer quelque chose qu'on ne voit pas, qui est dans l'inconscient.
Oui, quand on n'est pas au courant, qu'on ne sait pas,
c'est ça.
On ne peut pas faire grand-chose.
Mais en fait, on est toujours au courant, puisque la vie nous le montre tout le temps en face.
Mais on a quand même cette particularité, il faut quand même qu'on se le mentalise, ou qu'on raisonne, ou qu'on lise un bouquin qui nous dise, regardez, c'est évident. Pour se dire, finalement, c'est vrai, testons, ça coûte rien de le tester.
Exactement,
en tous les cas.
Moi,
ça ne peut pas faire de mal.
C'est de le prendre comme un jeu au départ, vraiment comme un jeu, et de le tester sur des situations même pas trop impliquantes émotionnellement, sur des petites situations, et on voit que ça fonctionne très très bien.
Ça doit être pas mal dans les conflits. On dit souvent dans les fêtes, Pâques, là, Noël, les repas de famille, ça finit souvent par des conflits. Donc là, ça peut être intéressant justement d'être capable de
désamorcer.
C'est là qu'on voit c'est que si l'année d'après, tout d'un coup, tout se passe bien, c'est qu'on a réussi quelque chose, quoi.
Exactement. C'est des conflits en famille. Oui, c'est
tout le temps.
Je me souviens d'une personne, mais je crois que je l'ai donné un exemple dans le livre où j'étais. C'était une fille avec sa mère et cette femme-là, c'était une femme qui avait un certain âge déjà, et cette femme-là était en conflit vraiment avec sa mère qui était très 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 odieuse. Et on a travaillé à ce qu'elle reprenne la projection, toutes ces projections qu'elle faisait sur sa mère, où finalement elle enfermait sa mère là-dedans. Et cette situation continuait depuis des années et des années. Le jour où elle a libéré sa mère de ça, qu'elle a repris ça en elle, qu'elle a vu où est-ce que chez elle était comme ça, et qu'elle a mis de l'amour, qu'elle s'est donné de l'amour, qu'elle s'est accueillie en ça, qu'elle a pu transcender ça. Eh bien, je me souviens de cette fois-là où elle est venue en me disant, vous savez ce qui m'est arrivé? Aujourd'hui, j'ai été chez ma mère et elle m'a dit, je t'aime. Et toutes les deux, on était estomaquées.
Oui, je
dis, vraiment.
Vraiment. C'est un repas qu'elle lui a dit, je t'aime, finalement.
Et c'est comme ça que se passent les choses, quand on libère l'autre.
En gros, ça veut dire que quelque part, on conditionne aussi la personne sur qui on a cette projection de nous-mêmes, quoi.
Exactement. On enferme quelqu'un dans une projection.
On condamne à être ce qu'on veut pas être, finalement. Voilà. Ou ce qu'on ne veut pas reconnaître en nous, quoi.
Et en fait, on pourrait le dire autrement. On pourrait dire qu'on voit à l'extérieur, non pas ce qui est la réalité, puisque la réalité n'est que amour. J'insiste un peu sur ce mot amour. Mais
vous avez raison, parce que ça ne rentre pas.
Donc, on ne voit pas la réalité à l'extérieur. On voit que la projection de nos histoires. Et quand on enlève ces histoires-là, il y a la réalité de la vie qui émerge. Comme cette mère qui dit à sa fille, je t'aime.
Avez raison, de toute façon, parce qu'on le sait, et puis on peut le voir tous les jours, dans une même situation, deux personnes peuvent vivre complètement différemment la chose.
Exactement.
Une peut en faire un scandale, un truc qui la dépasse, qui va la mettre en larmes, et l'autre va se dire, mais qu'est-ce qu'elle a?
Parce que ça, c'est quelque chose qui la concerne.
J'exagère, mais c'est un peu ça, quoi.
Et si chacun reprenait ce par quoi il est concerné, ça changerait bien des relations, vraiment.
Oui, parce que des fois, on surjoue,
Oui.
Voilà. Donc, et puis quand c'est passé, on se dit, mais qu'est-ce qui m'a pris, quoi?
Voilà.
Pourquoi je suis partie comme ça, dans une épopée
En tout cas, ce qu'on peut dire ici, c'est que c'est quand on est très en colère à l'extérieur, ça parle de notre grande colère envers nous-mêmes. Donc, il y a d'autant plus d'intérêt de venir regarder ça. C'est difficile, vous le dites souvent, c'est difficile de revenir voir ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on ne veut pas le voir, en général, on se protège des situations. Mais quand on se protège des situations, on vient protéger en soi aussi un espèce de poison. Je fais exprès d'employer un mot fort. Hein.
Non, mais c'est un mot qui va bien, je pense.
Voilà. Et du coup, c'est pas intéressant. Il est beaucoup plus intéressant de venir voir ce qu'il y a en soi et de libérer plutôt que de protéger en soi le poison.
Il ne faut pas que la pensée s'enracine. La mauvaise, quoi. C'est un extrait de votre livre aussi.
Oui.
Une pensée ne fait pas de mal lorsqu'elle ne fait que passer. Elle fait mal lorsqu'elle envahit ma conscience et s'enracine en moi.
Voilà.
Donc, c'est la même chose. Enfin, c'est
oui,
j'ai en moi cette idée que, bah, je ne sais pas...
Plus on ressasse des choses, on s'appuie dessus que plutôt que de le libérer, ça va finir par s'enraciner et... Et c'est là où c'est un peu plus long à nettoyer après.
Oui, mais ceci dit, c'est des bagages qu'on nous donne hein, aussi. Dans le Viking, je crois qu'ils disent qu'il faut travailler sur ce qui a été corrompu par les parents. Par les...
oui.
Parce que, par exemple, on se dit « Oh, la vie est dure, vous ne pourrez rien avoir sans la sueur de votre front. Enfin, »
ouais.
J'essaie de sortir des phrases comme ça, un peu clichés, qui ouais, nous dirigent un peu tous.
Oui, c'est ça. Donc, dans un premier temps... Dans un
premier sortir déjà de ça.
Oui, dans un premier niveau de notre vie, c'est vrai qu'on dit que ça nous a été donné par nos parents, etc. À un moment donné, il faut aussi sortir du fait que ça nous a été donné par le conditionnement et nos parents. Sinon... on reste toujours victime de quelque chose. Donc l'idée, c'est de reprendre à soi et de dire « j'ai ça en moi, qu'est-ce que j'en fais ? Je le choisis ou je ne le choisis plus ?»
Ça, c'est voilà. Important, c'est-à-dire qu'on a le choix de se dire « non, ça, j'en veux pas. »
Exactement.
Ou « j'en veux plus. »
Et moins on est en colère contre ce truc-là, plus on va arriver à le lâcher.
Oui. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans votre bouquin, c'est tout le lâcher-prise.
Oui.
On en parlait un peu hors antenne. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, hein, tout le monde nous le dit. Hein, il faut lâcher prise, c'est bien de lâcher prise, lâcher donc prise. Mais en vérité, on ne sait pas trop ce que c'est des fois.
Ouais.
Quand on n'y arrive pas, on culpabilise un peu parce qu'on sait comment je fais pour lâcher prise, ça veut dire quoi. Et là, ce que j'aime bien, c'est que vous nous donnez aussi une méthode comme ça. Ou même plusieurs, je crois. Hein.
Oui.
Pour arriver au lâcher prise, qu'est-ce que le lâcher prise ? Comment on atteint ce lâcher prise et puis aussi le définir quand même. Et une des questions que j'aime bien, c'est est-ce que vous préférez avoir raison ou être heureux ?
Oui, c'est ça.
Là, on comprend bien à quel moment on va lâcher prise là. Non, je veux absolument avoir raison.
Oui, c'est ça.
Et là, je ne lâcherai pas prise, toi.
Ouais. Et ça nous ramène à la question de choix. Quel choix fait-on ? Est-ce qu'on veut être heureux ? Et on va lâcher notre vision, l'étiquette qu'on a mise sur l'autre, tout ce qu'on lui a collé dessus. Est-ce qu'on accepte de le lâcher et du coup, on va pouvoir être plus heureux. Ou est-ce qu'on veut avoir raison et du coup, on va rentrer dans un conflit, dans la lutte, etc. Mais on ne s'en sortira pas.
On parlait des repas de famille tout à l'heure.
Oui.
Souvent, les conflits, c'est ça. C'est deux idées politiques différentes ou deux dogmes un peu différents ou quelqu'un qui veut sortir.
Qui veut avoir raison sur l'autre.
Et oui, c'est toujours ça. Hein. Ouais. C'est moi qui ai raison.
Alors que l'idée, ça serait plus d'exprimer ce qu'on a à l'intérieur de soi et de laisser l'autre libre d'être qui il veut.
Faut lâcher prise. Là, dans ces cas-là, lâcher prise, ça veut dire quoi ? C'est bon, je m'en fous finalement. Laissons-le parler.
Non, ça veut.
Non. C'est pas facile. Hein.
Je
ne
le dirais pas comme
mal,
ça. Je le dirais dans un cas comme ça. Je le dirais dans le fait que vraiment. Celui qui a suffisamment d'amour pour lui, il n'a pas besoin de convaincre quelqu'un d'autre.
Mmh.
Vraiment. Et dans la notion de lâcher prise, il y a la notion de venir s'accepter là où on en est. Et le lâcher prise, ce n'est pas nous qui décidons de le faire. Nous, on ne fait rien du tout, à part venir apporter de l'amour sur ce qui est là ou sur soi-même. Et l'amour fait le travail. C'est
d'accord.
L'amour qui va faire que ça lâche prise.
Mais donc, reprenons des exemples. Hein. J'aime bien votre livre parce qu'il y a plein d'exemples.
Voilà,
justement.
Donnez-moi ça.
Non, mais je reste sur ce repas de famille où on se
d'accord.
prend la tête à cause d'idées, hein,
oui.
d'avoir vouloir avoir raison, etc. Donc finalement, c'est en se disant, mais finalement, je l'aime. C'est mon cousin, c'est mon père.
Je m'aime.
Oui.
Je m'aime suffisamment. Et du coup, je n'ai pas besoin d'avoir... je n'ai pas ce besoin de devoir avoir raison parce que je m'aime suffisamment.
Ah, d'accord.
Oui.
Ok. Ouais. Moi, je m'étais dit, je l'aime assez pour le laisser avoir raison. J'inverse encore
oui.
la
chose. Vous n'allez pas agir sur l'autre. On ne peut rien faire sur
d'accord.
les autres. Absolument rien. Peut-être dans un temps court, pardon. Sur un temps court, on peut faire quelque chose, mais
donc,
mais
se poser quand même
pas.
La question, pourquoi ça me fait réagir ? Pourquoi je veux absolument avoir raison ?
Et vous pouvez, si vous êtes vraiment énervé...
Qu'est-ce qui m'énerve chez lui,
exactement,
que j'ai en moi ?
Exactement, exactement. Et là, vous allez trouver une réponse.
Je commence à comprendre votre livre.
C'est ça. Et c'est ça qu'il faudra aimer chez vous. Le fait que vous en soyez là. Je m'aime parce que je ne supporte pas... qu'ils disent n'importe quoi, admettons. Bon, ça va pas être sympa, hein, mais
pas grave.
vous allez vous réapproprier ça en je ne supporte pas que je dise n'importe quoi.
Mais c'est là que c'est dur.
Mais oui, c'est dur.
Parce
mais...
qu'il faut qu'on accepte d'être celui qui dit n'importe quoi.
C'est ça.
Alors qu'on est persuadé que c'est l'autre.
Mais le petit truc qui soulage un petit peu, c'est que vous n'êtes pas comme ça dans toutes les parties de votre vie. Vous êtes peut-être comme ça juste avec un enfant, votre enfant.
Ou dans
enfant,
une situation précise, familiale, où c'est
oui,
à vif,
voilà.
Où c'est,
voilà. Oui, avec quelque chose de très, très précis.
Parce que mais dans d'autres circonstances, on est super cool, par exemple, où on accepte la contradiction. Et,
c'est exactement
ça. Et c'est
là,
à ce moment-là précis que ça pète. Quoi.
Voilà.
C'est vrai. Enfin, c'est vrai. Je vous donne raison.
Merci.
Non, mais vous savez que vous avez raison, de toute façon. D'accord, mais c'est intéressant quand même. Si ça pouvait soulager tous ces conflits familiaux des fêtes de fin d'année, de Pâques et autres anniversaires.
Mais je vous propose de le faire pour vous, parce qu'a priori, c'est votre histoire. Mais
ça va.
De voir...
Ça va. On a dépassé ces conflits-là, on va dire.
Ouais.
Heureusement, d'ailleurs.
Oui, oui, oui.
Mais il y a eu toute une période, effectivement, où c'était conflictuel, machin.
Voilà.
Mais pour en sortir, c'est vrai, dans la relation, moi, j'ai eu un peu cette idée de me dire, bon, il faut laisser l'autre parler et accepter qu'il, même s'il a tort, qu'il ait raison, quelque part, enfin, qu'il ait le dernier mot. De façon à ce que ça casse le conflit, qu'on laisse parler, quoi. Voilà.
Voilà. Et quand vous faites ça, en fait... Dites-moi, est-ce que ça vous soulage? Je pense que finalement, ça fait du bien.
Ah oui, parce que maintenant, c'est fini complètement. Enfin, là, ça fait des années, ce dont je parle, c'est vieux.
Voilà.
Mais c'est vrai que ça a été un peu long, parce que c'est dur quand même de la fermer, quelque part, ou d'accepter ce que vous dites, de se dire, bah, finalement, c'est moi-même, etc. Mais c'est très efficace.
Voilà. Mais si vous êtes vraiment centré en vous, vraiment, c'est pas difficile du tout.
Bon.
Ouais.
Oui, dans ce cas-là, ça avait pris un petit peu de mal. Alors moi, ce que j'aime bien, oui, voilà, c'est qu'on peut essayer, et on a des exercices même de lâcher prise.
Oui, bien sûr.
C'est cool.
L'idée, c'est que mon idée, c'est que de plus en plus de gens pratiquent, de plus en plus de personnes aillent vers ça. Parce que comme j'ai dit, les relations et peut-être ce qui se passe dans le monde, ce sera mieux.
Oui, et puis finalement, ce que vous dites, c'est que le lâcher de prise, c'est le choix de la paix.
Oui.
Tant qu'on ne lâche pas prise, on est dans cette dualité, ce combat.
Exactement.
Soit avec soi-même, soit avec les autres, puisque de toute façon, on ne veut pas lâcher l'affaire.
Voilà. Et quand on ne choisit pas la paix à l'intérieur de soi, on ne peut pas amener de la paix à l'extérieur de soi, que ce soit dans une réunion de famille ou que ce soit...
En politique Non, ça vient de me traverser l'esprit avec notre président qui n'arrête pas de dire « je ne lâcherai pas
».
Et de voir comment ça empire de l'autre côté.
Voilà, c'est ça.
Est-ce qu'on a quelque chose à lui conseiller, là, peut-être?
Faudrait qu'il ait envie d'écouter.
D'accord.
C'est ça.
D'autres que ses conseillers. Alors, on a aussi la pratique du véritable lâcher-prise, avec des blessures très actives.
Ouais.
Il est difficile, justement, de laisser aller. Ou de...
Voilà. Oui, parce qu'on peut, sur des petites choses, on peut juste apprendre à lâcher prise avec cette question ou d'autres sujets. On peut dire, oui, bon, ok, je lâche, c'est bon. Mais parfois, quand la blessure est très, très, très profonde, là, ça devient difficile. Et à ce moment-là...
C'est douloureux même, puisque c'est profond, non, j'imagine.
C'est douloureux. Et c'est là où, justement, je parle d'apprendre à s'aimer là où on en est, et que ce n'est pas nous qui ferons le travail, c'est vraiment l'amour qui fera le travail. Nous, on a juste à choisir de s'aimer ou de se le dire. Et juste le fait de le choisir, il y a quelque chose de vibratoire qui va se passer. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui va lâcher. Vraiment, c'est à expérimenter, en fait, le lâcher prise. C'est difficile d'en parler comme ça, parce qu'on pourrait ne pas y croire, mais quand on l'expérimente et qu'on voit à quel point il y a quelque chose qui peut pivoter quand ça se passe, on choisit d'apprendre de plus en plus à aimer.
Oui. En plus, ce qui est intéressant, c'est que, justement, il est concret, votre explication. Il y a différents niveaux, du lâcher prise, celui où il s'agit juste d'être en paix, puis celui où il s'agit de blessures profondes qu'il faut arriver à
s'aimer là-dedans.
Ah oui, à s'aimer là-dedans, et même pas juger.
Voilà. On parle même pas de l'autre. On laisse l'autre. En fait, l'autre n'a été qu'un révélateur de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et on vient juste travailler sur nous.
Et sur la vérité, c'est ça que je voulais dire. C'est ça qui est un peu difficile, c'est qu'il faut que ça soit lumineux, qu'on ait bien éclairé la blessure.
Et oui,
la douleur, la...
Mais ça,
avec le jeu du miroir, on commence petit à petit à comprendre où est-ce qu'elle peut être.
Voilà, vous trouvez quelle est la blessure avec les questions, qui sont très simples. Hein. Qu'est-ce que je reproche à l'autre? Qu'est-ce que tout ça? Et non, après la partie, c'est soit de... Il y a le lâcher prise, il y a le pardon aussi. Hein.
J'y ai arrivé.
C'est regardez. Vrai
Je suis pile dans la page du pardon, là.
D'accord.
Enfin, la page, le chapitre. Parce que, enfin, il y a plusieurs pages hein, en tous les cas sur le pardon.
Oui.
Oui, parce que ça fait partie des gros clichés du développement personnel, le lâcher prise et
oui.
pardonner.
Et pardonner.
C'est pour ça que je voulais vous prendre sur ces deux thèmes qu'on
d'accord.
a déjà abordés. Dans...
Où on dit j'ai lâché prise, mais en fait il y a rien qui n'a été lâché. Et
je
où on
pardonne
dit
rien.
Je pardonne. Et en fait il y a rien qui a été pardonné.
Non, pas forcément, mais savoir un petit peu justement l'importance de ce pardon et à qui on doit on l'adresse. Parce que si je vous crois. C'est à soi-même, finalement.
Oui.
On doit se pardonner soi-même.
Oui, oui, oui.
C'est ça qui est aussi différent dans votre livre.
Ouais. C'est un superbe outil, le pardon, vraiment. Pour moi, il arrive quand même après le lâcher prise, parce que c'est un chemin qui est important. Et pour faire ce chemin, l'idée, c'est de commencer à être en paix à l'intérieur de soi. Donc, d'avoir commencé à accueillir où est-ce qu'on en est. D'avoir arrêté de se juger par rapport où est-ce que là où on en est. Mmh. Et après, on peut pratiquer le pardon. Et souvent, on pratique le pardon sur l'autre en disant bah, « je lui pardonne de m'avoir fait ça ». Mais par rapport à tout ce qu'on vient de voir, l'autre n'a été qu'un révélateur, mais la cause, elle est à l'intérieur de vous. Donc évidemment, c'est là où c'est à nous de se pardonner.
Oui, ce que vous dites, pardonner aux autres pour ce qu'ils ont fait. Alors, il y a différentes facettes, et notamment une facette qui est l'induction d'un sentiment de supériorité. Je suis supérieur puisque je suis capable
oui,
de pardonner.
Voilà, ça peut être ça, je me sens
donc,
supérieur.
C'est à côté de la plaque aussi. Oui, voilà. Donc, du coup, on est encore en train de se flatter
exactement.
Et de se croire
exactement.
Autre.
Exactement. Et ça, c'est pas le vrai pardon. Mm. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit « je comprends pas, pourtant j'ai pardonné, mais ça continue ». Bah oui. Mais ça n'a pas été pardonné.
Ils arrivent, en gros, on arrive quelque part à passer, à accepter la douleur ou quoi, parce qu'on s'est mis au-dessus. En disant, je lui pardonne, donc ça va mieux.
Oui, voilà, mais c'est une illusion. C'est une illusion. Et la vie, de toute façon, viendra toujours nous faire voir que le pardon n'est pas vraiment fait. Pour moi, le pardon est vraiment fait quand... déjà, quand on ne rencontre plus ce genre de situation. Et parfois, quand il y a eu un conflit avec une personne, quand on est capable d'aller voir cette personne... Et de reprendre une relation peut-être différente, mais quand même une relation de paix.
Il y a un autre niveau de pardon que vous décrivez, c'est celui où on demande pardon aux autres pour se servir d'eux.
Ouais.
Ça veut dire quoi, ça? On se sert des gens
On se sert de l'extérieur pour ne pas aller vers notre lumière.
D'accord.
En fait.
Mais c'est tordu complètement, en fait. On est complexe, on va dire.
Nous sommes des êtres très complexes parce qu'il y a ce niveau intérieur et il y a ce niveau extérieur. Et parfois, on confond. On croit que la réalité est à l'extérieur, mais en fait, la réalité part de notre intérieur. Et quand on confond, quand on ne veut pas voir, en tout cas, la beauté que nous sommes, parce que c'est ça, hein, c'est que nous sommes des êtres quand même faramineusement exceptionnels, et tous. Mais quand on ne veut pas le voir, eh bien, on va se trouver des stratégies à l'extérieur, on va se servir de quelqu'un en disant « cette personne m'empêche de m'exprimer ».
Donc on se victimise.
On se victimise,
quelque part. Mmh.
Mais en fait, c'est jamais la personne qui nous empêche de nous exprimer. C'est nous-mêmes qui avons une peur effroyable de nous exprimer. Ouais. Et on utilise cette personne pour ne pas venir voir que c'est nous-mêmes qui nous faisons ça.
Et oui. Donc ça demande quand même...
une gymnastique
d'esprit. Oui, puis un certain niveau, ouais. de détachement, ou de, comment on peut appeler ça, pour être capable de se dire, finalement, j'utilise l'autre
ouais.
parce que j'ai peur de voir quelque chose... en moi.
Et bah oui.
D'accord, j'entends des bruits étranges.
Et en fait, c'est le pardon, il est à faire par rapport à cette personne. C'est je demande pardon, je te demande pardon, telle personne, de t'utiliser pour ne pas voir que j'ai peur de m'exprimer et pour ne pas m'exprimer tout court.
On a du boulot.
Mais oui, surtout dans l'affectif.
Mais à la fin, tout va mieux. Ah oui, on peut se demander pardon parce qu'on se voit vieillir.
Oui.
Et vous rappelez que ça quand même, parce que vous regardez avec le regard, mais vous voyez vieillir. Demandez pardon pour cette croyance que vous maintenez et qui vous coupe de votre éternité.
C'est
on
ça.
Est toujours sur la base qu'on est merveilleux, en fait.
C'est ça. Nous sommes des êtres originellement parfaits et éternels. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut arriver
on
à dire.
On a du mal. Hein, ouais, ouais,
le... Mais après, dans le concret, est-ce qu'on le vit vraiment? Parce que le fait... Bon, moi, je suis comme vous, hein, j'en parle, mais dans les faits, on est toujours en train de regarder le fait que nous sommes des êtres vieillissants, etc. Mais est-ce que c'est une réalité, ça? Est-ce que ce n'est pas une histoire qu'on se raconte, puisque...
On est dans un paradoxe. On vit comme si on était éternel. D'ailleurs, quand je vous parle, là, je n'ai pas la notion que je vais mourir demain. J'ai l'impression que voilà, la vie est là. Et c'est après que des fois, tout seul, quand on se voit dans le miroir, on se dit « Oh là là, j'ai pris
mais,
une
mais
claque ».
Mais peut-être vous vivez ça parce que vous
ou
êtes...
quand on voit une vieille photo, on se dit « Oh là là, j'ai c'est pris ça. Une claque ».
Mais ouais. Peut-être vous vivez ça parce que vous êtes en train de vous raconter l'histoire que vous vieillissez. Et moi, je me la raconte aussi parce que j'ai du mal à sortir de l'inconscient collectif qui se raconte ça. Mais
il est puissant, celui-là.
Il est très, très puissant, celui-là. Mais il y a quand même des peuples qu'on connaît moins, mais il y a quand même des peuples qui vivent beaucoup plus longtemps que nous, par exemple, parce qu'ils ont une autre croyance que nous.
Et puis, il y a la science qui dit que notre corps est fait pour vivre, je ne sais plus, 150 ans ou 125.
Mais
il y a même un docteur qui a dit « Toute mort avant 120 ans est prématurée ». Donc, finalement, la science rejoint un peu cette idée.
Oui, c'est ça. C'est,
on s'auto-détruit nous-mêmes, quelque part.
C'est tout à fait ça, avec certaines histoires qu'on se raconte qui ne sont pas forcément vraies. Alors que la réalité est vraiment très puissante.
Puis d'ailleurs, tout ça engendre des comportements aussi. Puisqu'après, on peut avoir de la boulimie, de l'anorexie, tout ça parce qu'on a
un décalage entre notre réalité profonde, originelle, et cet être qu'on se fait vivre et qui n'est pas... c'est pas toujours fun, c'est pas toujours comme on aimerait. Ouais. C'est sûr qu'au fond de nous, on connaît toutes ces vérités.
On se fait du mal quand même. On est tout le temps en train de se juger. Non, mais quand je réfléchis bien.
C'est vrai.
Une fois mais... quoi, sauf quand on a peut-être fini par appliquer complètement. Mais même vous, finalement. Puisque la vieillesse, enfin, qu'est-ce qu'on vient d'en parler là, le fait de se sentir vieillir dans un monde.
Je ne suis pas encore exempte de toutes les histoires.
On se fait beaucoup de mal, l'air de rien. On se juge, on se maltraite.
Et si
on se met en colère contre les autres.
Si on faisait un autre choix.
Bah oui, c'est tout l'intérêt.
Ouais, c'est ça. Déjà, d'écouter ses pensées et d'éviter de juger quoi que ce soit, là, on se fait vraiment beaucoup de bien. On retrouve beaucoup plus de paix.
Que la paix soit avec nous. Vous allez sortir un tome 2 ou avec celui-là, ça ira sur l'effet miroir
Sur l'effet miroir,
Géraldine Bergon.
Je ne sortirai pas un tome 2. Je vais faire, je fais des vidéos aussi sur YouTube, donc je vais faire des petites vidéos supplémentaires sur des thèmes spécifiques qui me sont demandés. Par contre, je prévois une suite, oui, qui est que quand on développe justement ce miroir de plus en plus lumineux, on peut commencer à arriver à quelque chose qui est naturel chez nous, qui est le miracle. Nous sommes aussi des êtres miraculeux. Et je suis en train d'écrire un deuxième livre là-dessus.
J'espère. Non, mais qu'on atteindra cette... C'est vrai, parce qu'apparemment, une fois qu'on atteint le jugement dernier, quoi, ou le dernier jugement qu'on porte aux autres et à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a atteint cet état, un peu un état de grâce. Quoi.
Voilà, c'est super. Mais en même temps, vous savez, ce n'est pas le but qui est important, c'est le chemin.
D'accord.
J'aime beaucoup cette phrase aussi.
Ben, j'espère que si vous nous écoutez, votre chemin vous amènera vers une librairie ou sur Amazon, j'ai mis le lien sur la vidéo Facebook, pour trouver ce livre « L'effet miroir » de Géraldine Bergon, qui était notre invitée aujourd'hui, paru aux éditions Sidney Laurent.
Oui.
C'est des éditions parisiennes ?
C'est ça.
Petite maison d'édition sympa. Ben, Géraldine, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et puis à bientôt.
J'espère.
Merci à vous aussi de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur osmose-radio.fr, podcast des émissions Osmosen. Et puis vous la réécouterez dimanche soir à 22h sur Rage, notre partenaire FM 90.3. Merci à tous, portez-vous bien, à bientôt.